Bonjour et bienvenue dans 20 minutes d'histoire qui, cette fois pour son troisième épisode, va traiter du péplum.
C'est sur les tambours de Bernard Herrmann, compositeur de la musique du film Jason et les Argonautes, sorti en 1963, à la grande époque des péplums, que nous allons débuter en fanfare cette émission.
Et je passe la parole donc à mon collègue Pascal Montlahuc, antiquisant, pour commencer donc une rétrospective sur l'histoire des péplums.
Donc je vais rappeler simplement que le péplum est un genre qui est très à la mode en ce moment. Entre octobre et novembre de l'année dernière, il y a deux livres qui sont sortis sur le sujet, deux livres d'historiens, donc le premier d'un historien français qui s'appelle Claude Aziza et qui a écrit « Le péplum, un mauvais genre », et le deuxième d'un historien du cinéma suisse qui s'appelle Hervé Dumont, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'antiquité au cinéma, vérité, légende et manipulation ». Donc le mot péplum vient du grec peplos, qui a été réemployé en latin, qui veut dire tunique, et donc cela renvoie à un genre de film ayant un rapport direct avec l'Antiquité en général, qu'elle soit égyptienne, grecque ou romaine. Ce terme de péplum fut utilisé dès les années 1950 par des initiés. Donc un site internet nous donne une très belle définition de ce que peut être un péplum. Charles,
tu peux nous citer ? Nous l'avons trouvé finalement, les péplums, pour tout un chacun, ça pourrait signifier un héros à la musculature hypertrophiée, une héroïne ingénue, une courtisane un peu salope. Des catastrophes naturelles, des affrontements guerriers, des banquets orgiaques, des danses suggestives du sadomasochisme et à la fin un héros victorieux. Pourtant, le péplum représente une véritable histoire dans le cinéma et du cinéma. Le premier film qu'on peut qualifier de péplum a été réalisé en 1898, il dure 20 minutes, c'est La Tentation de Saint-Antoine de Georges Méliès. Donc le genre connaît ses premiers balbutiements en Italie au début du XXe siècle, avec notamment Les Derniers Jours de Pompéi, où en 1909, Néron, de Louis Maggi, qui utilise les ressorts du personnage dramatique de la légende néronienne, la légende noire. Le premier effet donc, de ce nouveau genre, c'est l'allongement des pellicules et l'utilisation des premiers trucages, voire effets spéciaux. Le genre donc, n'est pas comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Il peut avoir un côté beaucoup moins populaire. On a notamment Gabriele D'Annunzio, lors de cet apogée finalement du cinéma italien de l'avant-guerre, qui participe au film Mec Cabiria, qui a écrit toutes les planches entre les scènes. Les péplums servent donc également à vanter les mérites d'une Italie conquérante à l'époque du fascisme, à justifier la colonisation notamment de l'Éthiopie, avec le film Scipion l'Africain de Carmine Gallone, symbole d'une lutte entre un Occident conquérant et un Orient en déliquescence. Donc les grands héros du genre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont déjà présents dans les années 20. Ben-Hur, par exemple, sort une première fois en 1925 avec une bande-annonce que nous vous recommandons fortement. On a donc une première forme du péplum italien de la première moitié du XXe siècle et une deuxième forme dont va nous parler Pascal.
Donc à partir de 1949 et le film Samson et Dalila réalisé par Cécile Demille qui avait déjà réalisé en 1932 Le signe de la croix, on rentre réellement dans ce qu'on a appelé l'âge d'or du péplum, c'est-à-dire, en gros, les péplums sortent tout entre les années 50 et 60. Donc, nous sommes dans l'après-guerre, les productions franchissent l'Atlantique, et le péplum devient un symbole du cinéma populaire avec des personnages qui reviennent souvent, comme Hercule, Cléopâtre, ou bien des personnages de l'Antiquité grecque, comme par exemple le film Ulysse de 1954 de Mario Camerini, où apparaît un certain Kirk Douglas que l'on retrouvera évidemment dans d'autres grands films. Au début des années 60, la redécouverte du péplum contribue à créer des stéréotypes attachés à ce genre cinématographique, avec notamment la série autour du personnage de Massiste, qui est un esclave qu'on retrouve en Grèce, en Égypte, et autour duquel affluent les gros bras. Mais c'est également l'époque des grandes fresques historiques à gros budget, notamment les deux films dont nous allons parler un peu plus longuement ensuite, à savoir Ben-Hur, produit en 1959, de William Wyler, et Spartacus, évidemment, en 1960, de Stanley Kubrick, avec Kirk Douglas. Mais le genre va avoir tendance à péricliter, puisque les western spaghetti, comme par exemple Pour une poignée de dollars, prennent le devant de la scène en 1964. Et le dernier des grands péplums de cette époque, et celui de Fellini qui s'appelle le Satyricon, qui est inspiré directement du roman de Pétrone, qui est réalisé en 1969 avec un côté beaucoup plus érotisant, beaucoup moins violent.
Jusqu'au grand retour de ce genre cinématographique dans les années 2000. Donc où l'on retrouve notamment le célèbre film de Ridley Scott, Gladiator, avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix, qui sort en 2000. 3, avec Brad Pitt en jupon et Orlando Bloom, qui sort en 2004. 300, d'autre part, donc de Zack Snyder avec Gerard Butler dans le rôle de Leonidas. Et très récemment, le film Agora en 2009, qui revient sur les premiers temps du christianisme à Alexandrie au IVe siècle. Au milieu de tout cela s'est glissée la série que certains d'entre vous ont peut-être vue, Rome, chez HBO, où l'on peut suivre les tribulations de Lucius Vorenus et Titus Pullo, proches de César et d'Auguste.
Après cette rétrospective, nous allons passer à l'étude des péplums les plus caractéristiques du genre et les plus connus. Les amateurs de péplum classique l'auront reconnu, il s'agit de la musique de Ben-Hur, composée par Miklos Rosa, émigré de l'Europe de l'Est aux États-Unis, qui a fait donc partie de cette grande vague de compositeurs d'Europe de l'Est comme Max Steiner ou Franz Waxman ou Dmitri Tiomkin, qui a composé la musique de la Terre des Pharaons, dont se sont servis les réalisateurs de péplum. Ici, ce qu'on peut reconnaître en premier abord, ce sont les cinq sons donnés par les cuivres qui forment une échelle. Pentatonique donc. Les fanfares sont très utilisés dans beaucoup de péplum. Les cuivres donnent tout de suite ce côté pompeux, glorieux, triomphant. Il s'agit, avec ce rythme heurté des cuivres, d'une forme relativement simple, censée reproduire la musique archaïque, puisque aucun traité de musique n'a été écrit. On ne connaît pas la musique des anciens. Cette musique sert donc principalement de cadre pour une Rome retrouvée.
Oui, alors cette musique met bien en avant la sorte d'idée que les réalisateurs ont voulu imprimer dans la tête des gens, à savoir que l'Empire romain était une sorte d'âge d'or, surtout entre le 1er et le 2e siècle, le grand âge d'or de l'Empire, autour duquel rien ne résistait à la civilisation romaine. Mais le péplum de Ben-Hur, ce n'est pas seulement ça, et on voit d'autres messages qui se sont glissés, qui sont beaucoup plus nuancés que cette sorte d'introduction à gros sabots, entre guillemets.
Notamment une évolution donc parfois bien connue de l'Empire romain aux alentours des années 33, dont nous allons voir un extrait maintenant. This is where your search has brought you, Baldassare. You gave me water and a heart to live. What has he done to merit this? He has taken the world of our sins onto himself. To this end, he said he was born in that stable where I first saw him. C'était donc la toute fin du film de Ben-Hur où un certain Jésus-Christ vient de se faire crucifier. Et donc, on a toute cette métaphore finalement dans le film de Ben-Hur. Du passage au christianisme, notamment un passage avec Jésus qui donc abreuve Ben-Hur, et donc toute une métaphore autour de l'eau qui abreuve les acteurs et l'Empire romain qui, au début de sa conversion finalement vers le christianisme.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas seulement cela qui est mis en avant, et qu'on pourrait interpréter le péplum comme une sorte de glorification d'une société bien pensante qui rattache tout au côté chrétien du péplum, mais on voit que par exemple dans les péplums qui sont sortis un peu plus récemment, ce côté de la religion est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus timoré, je dirais. Par exemple, on voit que si le côté chrétien est mis en avant dans des films comme Ben-Hur, dans 3 il n'en est rien par exemple, et on voit que le côté païen est souvent en même temps mis en avant et en même temps tourné en ridicule. Par exemple, on sait que dans 3, l'intervention des dieux, qui est un état de fait très fort dans l'ouvrage de Homère, est quasiment absent du film. Donc, je ne sais pas, Charles, ce que tu en penses, mais je pense que, entre guillemets, il y a une sorte de dialectique entre les deux, entre le côté chrétien et païen, On ne comprend pas vraiment ce qu'ils veulent montrer, finalement.
Est-ce que tu ne penses pas, justement, que dans 3, on a le côté dénégation de la religion païenne pour renforcer une éventuelle religion chrétienne, même si ça apparaît pas dans le film, notamment quand Achille décapite la statue d'Apollon.
Ce qui est très intéressant, c'est que c'est totalement anachronique, parce que ce film, bon, les œuvres d'Homère, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elles ont été écrites, mais en gros, entre le 10e et le 9e siècle, voire jusqu'au 8e siècle avant notre ère, donc là, la question du christianisme, c'est même pas, enfin je veux dire, évidemment, même pas une ébauche de choses, mais c'est vrai que le film a tendance à mettre en avant une sorte de refus de la religion, de refus des dieux, et on a un peu l'impression que les Américains ont voulu montrer ce côté plutôt, je dirais, laïque à la société grecque, une société déjà qui était, si elle existait évidemment, on n'en sait rien, qui était loin d'être laïque.
Est-ce que tu penses qu'on peut parler de sécularisation de la société au sein des péplums, du coup, avec ce refus d'intervention de plus en plus des dieux, notamment dans 3, comme tu l'as dit?
Alors, parler de sécularisation, c'est peut-être un petit peu excessif, parce que bon, quand on dépeint une société grecque sans dieux, c'est un sacrilège, même pour les néophytes, je veux dire. Donc ça, c'est indissociable. Mais en effet, je pense qu'il y a un petit peu une sorte de jeu qui vise à moderniser le péplum et à sortir surtout l'antiquité des limbes dans lesquelles elle nous a parfois habitués à être, comme par exemple des dizaines et des dizaines de dieux dont personne ne se souvient. Et donc c'est peut-être un moyen de rendre plus accessible, en fait, le péplum, en simplifiant une mythologie qui est très 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 complexe. Hein. Donc,
En parlant de simplification et de nouvel attrait vers l'Antiquité, écoutez donc notre deuxième extrait musical. Peut-être encore plus reconnaissable que Ben Hur, il s'agissait de l'ouverture du film Gladiator de Ridley Scott, ouverture composée comme toute la musique du film par Hans Zimmer et Lisa Gerrard, qui ont eu notamment un Golden Globe en 2001 pour cette musique. Donc ici, je ne sais pas ce que t'en penses, mais on a des formules retrouvées du peplum, mais également la volonté d'installer tout de suite l'atmosphère de l'histoire. On n'encadre pas seulement une époque avec les cuivres, l'époque romaine triomphante, mais on cadre également l'atmosphère générale d'une histoire sombre. La musique installe dans le cadre de la tragédie. On le reconnaît notamment par cette variation infime autour de la note tenue par les cordes et la flûte plaintive et les jacques par-dessus. La mélodie tourne donc autour des mêmes notes, ce qui renforce ce côté angoissant.
Donc on a là, comme tu disais, un côté beaucoup moins grand, pour revenir à un côté beaucoup plus personnel, bondir.
Mais justement, puisque finalement l'ouverture de Gladiator, on peut le dire, l'introduction, ça se passe en Germanie, et le film s'ouvre également sur une scène de bataille. Mm-hmm. Comment interpréter cette musique un peu discrète, et comment interpréter aussi la bataille qui ouvre le film?
Et bon, on va passer un extrait pour qu'on se rende compte du discours de Maximus aux troupes. Mais avant cela, oui, c'est vrai que le film commence sur une bataille, mais c'est pas du tout la même dimension de bataille que dans Spartacus, où là on voit vraiment les deux armées qui s'affrontent. Là, c'est plutôt une bataille beaucoup plus discrète, avec encore une fois des troupes en nombre bien inférieur. Mais bon, on va laisser parler l'extrait, je pense, et puis voilà.
Laissons parler Maximus.
Patresse! Dans 3 semaines, je moissonnerai mes terres. Imaginez où vous voudriez être. Et vous y serez. Tenez la ligne. Restez avec moi. Si vous vous retrouvez tout seul, chevauchant dans de verts pâturages avec le soleil sur le visage, n'en soyez pas troublés. Car vous êtes aux Champs-Élysées et vous êtes déjà morts. faire ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité.
Donc on voit, enfin on a entendu dans cet extrait que Maximus encourage les prétoriens, donc ceux de la cohorte prétorienne, ceux qui sont censés être la garde rapprochée de l'empereur, à cette époque c'est Marc Aurèle, les encourage à se battre contre ce qu'on peut appeler des barbares encore à l'époque. Donc le barbaros, c'est ceux qui ne parlent ni grec ni romain. Et dans ce film-là, encore une fois, on tombe dans le cliché du barbare désorganisé, courant à travers les arbres avec la peinture sur la figure, etc., face à une armée romaine, même si elle n'est pas en légion, en grand nombre, etc., est très organisée, avec une hiérarchie propre, etc. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'au niveau de l'imaginaire, le travail des historiens pour réhabiliter la notion d'organisation chez les barbares, etc., enfin les barbares, les troupes non romaines ou non grecques, a été cassée par un petit peu ces visions.
Mais à partir de quand on véhicule ces clichés? Est-ce que c'est César qui, dans sa guerre des Gaules, ne véhicule pas cette idée de barbares complètement désorganisés face auxquels la stratégie romaine de l'ordre triomphe?
Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait, en effet, César met en exergue le fait que l'armée romaine, sous son commandement évidemment, soit très bien organisée, très bien ravitaillée, etc. Il élude tous les problèmes de ravitaillement qu'il a eu pourtant, et qu'il écrase ses adversaires. Cependant, ses adversaires, ils ne les écrasent pas très facilement. Vercingétorix, par exemple, c'est la figure même du barbare qui a su s'entourer d'autres rois, Arverne, etc., et qui a su être organisé en face. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Ce cliché est véhiculé par les péplums depuis finalement les années 60. On peut penser à la chute de l'Empire romain. Cependant, il y a peut-être un film qui fait exception, et ce serait le Spartacus de Stanley Kubrick, où notamment la scène de bataille entre Spartacus d'un côté, les esclaves qui l'accompagnent, et de l'autre les légions romaines. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut voir dans cette bataille qui finalement est remportée par les esclaves, et ce que Stanley Kubrick a voulu montrer lui-même, comme il l'a dit, c'est l'enrôlement dans l'armée des légionnaires sans qu'ils puissent réfléchir face à l'homme libre qu'incarne Spartacus en tant que marginal, en tant que quelqu'un qui remet en cause le système romain. Et notamment cet épisode des troncs enflammés qui roulent sur les légionnaires qui se désorganisent sans aucune imagination, puisqu'ils courent tout droit et finissent par se faire rattraper par ces troncs enflammés, démontre la dénonciation de l'enrôlement dans l'armée que fait Kubrick. Il ne faut pas oublier que peu après sortira Full Metal Jacket.
Oui, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Kubrick, dans ce film, a repris les clichés du barbare contre la civilisation pour leur donner un message totalement différent, comme tu viens de le rappeler. C'est-à-dire que l'homme libre a la possibilité de s'organiser différemment que la formation en carré, en cohorte, etc. Mais même s'il récupère les clichés pour leur donner un autre message, les clichés sont toujours là.
Je vois.
Et, voilà. Et en plus, ça se passe en plein contexte de guerre froide. Et certains historiens prennent cet exemple pour montrer la volonté donc, d'opposition entre une organisation d'une part et la liberté de l'autre. Alors comment interpréter cela? Est-ce que ça veut dire que les esclaves sont désorganisés, donc on les renvoie à l'URSS? D'un autre côté, si on leur colle une image de liberté, ça veut dire que l'URSS est libre et que ceux qui sont organisés et assimilés aux Américains sont eux pris dans un schéma de pensée. Je sais pas si...
Oui, mais je pense que c'est aussi Kubrick qui fait exception dans cette histoire, puisque par exemple dans la chute de l'Empire romain, il est clair que l'organisation romaine, avec Washington comme nouvelle Rome, si on veut voir ce qu'il y a derrière, l'emporte et rend beaucoup plus libre que la désorganisation qui est en face et qui représente celle de l'URSS. Tandis que chez Kubrick, c'est l'enrôlement dans les armées qui emprisonne tous les Romains. Et donc c'est au sein même des clichés qu'il essaye de transgresser les sens acquis du péplum.
Mais ce qui est intéressant, enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la fin de cette histoire, Spartacus meurt, finit crucifié parce qu'il a perdu. Ça, c'est autre chose. De toute façon, on ne peut pas écarter de ça le côté grand spectacle.
C'est ça, l'américanisation, la vision américaine donc, du peplum, on peut y penser sur certaines manières de filmer également, comme 3, par exemple, et notamment la manière de filmer le débarquement des trières sur les plages troyennes. Renvoie à toutes les images du débarquement de 1944 sur les plages normandes. Et nous allons écouter l'ouverture, encore une fois, du film de Troie pour comprendre l'évolution du péplum.
Il s'agit donc de la musique de James Horner, qui a fait également la musique de Titanic par exemple. Il a réutilisé une recette, si l'on peut dire, de Hans Zimmer pour le film Gladiator, c'est-à-dire la voix féminine avec notamment les aigus. Ça participe d'une recherche de l'authentique. Il faut savoir que la musique grecque dans les tragédies était chantée. Et les percussions ont également cette résonance antique avec un tambour spécial qui ne fait pas partie de l'orchestration traditionnelle. Toutefois, cette introduction tombe un peu à plat, puisque d'une part il s'agit de reprises de recettes antérieures, comme on l'a dit. D'autre part, le film s'ouvre sur un cliché du péplum, je ne sais pas ce que t'en penses, la bataille entre Achille et le Colosse. C'est une reprise du mythe édulcorée pour les besoins du film. On parlait justement de péplum à grand spectacle.
C'est une histoire, c'est une longue histoire que le rapport entre les trucages des grands spectacles, gros budget et le péplum. Est-ce que l'on a vu en début d'émission que le péplum était lié à l'allongement de la pellicule et au tout début du XXe siècle et à la première utilisation des trucages? En ce qui concerne 3, on a encore une fois l'altération finalement du mythe pour les besoins esthétiques et filmiques de l'œuvre.
D'accord. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le mythe en lui-même était déjà vu à l'époque comme une altération de la réalité. Et une certaine image que pouvaient se représenter les Grecs d'une société qui était passée. Encore une fois, je le rappelle, on ne sait pas quand est-ce que les œuvres ont été rédigées. Et donc c'est intéressant de voir comment le film se réapproprie le mythe, qui lui-même est déjà une réappropriation de la société antique. Donc c'est vrai que quand on regarde un péplum, on a du mal à saisir en fait déjà là dans le cas de Troie la réalité du mythe, mais encore plus évidemment la réalité de la société qu'il dépeint. Je pense que Troie a son lot d'incohérences et que les choses sont beaucoup moins figées que ce qu'on peut penser.
D'accord, donc on peut parler d'altération, de double altération finalement. Et quels sont les changements les plus choquants par exemple par rapport au texte homérique?
Alors le texte homérique dont on en a déjà parlé fait mention quasiment à tous les chants, puisqu'il est divisé en chants des divinités qui sont totalement absentes du film, mais aussi par exemple ce qui a fait la célébrité du mythe, comme par exemple les 7 tours de Troie lorsque Achille vient de tuer Hector et qu'il le traîne à l'arrière de son char autour de la cité de Priam, son père. Mais il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus incohérentes, qui sont beaucoup plus connues de manière générale. Par exemple, alors là, c'est peut-être encore une fois faire mieux passer le film aux yeux d'une société peu bien pensante, le fait qu'on assimile Patrocle au cousin de Achille, alors que dans le vrai texte, Achille et Patrocle sont amants. Et surtout, sûrement, enfin, c'est la chose la plus frappante, de voir que Ajax se fait tuer par Hector après le duel entre Ménélas et Paris. Alors que dans la mythologie, ce qu'on voit notamment sur des vases ou encore sur des boucliers, Ajax s'est suicidé car il devint fou après la mort de Achille. Il a voulu récupérer les armes de celui-ci et s'est empalé sur l'épée de Achille. Et surtout, on veut rattacher le mythe à ce que les gens ont l'impression de connaître du péplum. C'est ça qui est très intéressant, par exemple, lorsqu'il y a des morts dans Troie, on leur met des pièces sur les yeux, ce qui est une des choses qui est bien connue lors de l'Antiquité. On mettait des pièces sur les yeux des défunts afin qu'ils puissent payer Charon, le passeur des âmes, qui faisait passer donc les âmes sur le Styx, le fleuve des enfers. Or, à l'époque de Troie, si la datation est avérée, la monnaie n'en était qu'à ses premiers balbutiements, puisqu'elle est née au 7e siècle, on pense en Lydie, et ce n'était pas du tout des pièces, mais des tiges de fer. Donc là, on a bien un exemple du fait que les péplums veulent nous parler directement, veulent essayer de rendre une antiquité en même temps mystérieuse et en même temps accessible.
C'est avec l'exemple de Troie que nous allons achever cette émission consacrée au péplum. Nous vous remercions de nous avoir suivis donc pour ce troisième épisode de 20 minutes d'histoire. Nous passons bien le bonjour à notre troisième animateur, malheureusement retenu en Bretagne par ses activités de présidence du comité de sauvegarde des menhirs. Et d'autre part, nous remercions Chloé Huvet pour ses conseils en matière de musique de film.
Et nous vous laissons avec la musique de la semaine, qui est une musique de François Lay et Charlotte Labacchi, qui est un extrait d'un concerto italien presto de Bach.